France Inter, il est 7h.
France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Vendredi 19 février, bonjour et bon réveil à tous. Bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, après on a marché sur la Lune, on a atterri sur Mars. Le robot Persévérance s'est posé sans problème hier soir sur la planète rouge. Une réussite au-delà des espérances des scientifiques. Le récit d'une folle soirée dès le début du journal. Les autres titres, Agnès.
À partir de lundi, si vous êtes positif au Covid, il faudra rester cloîtré non plus 7 mais 10 jours. Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas sur la circulation des variants. Olivier Véran a fait le point hier. La ZAD de Gonesse en sursis. Et puis quand les sous-sols des parkings se transforment en fermes agricoles.
Invité de France Inter, ce matin à 7h45, vous retrouverez le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, Mario Draghi, le nouveau président du Conseil italien, réussira-t-il à sortir son pays de la crise ? À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'historien Pap Ndiaye. Il vient d'être nommé directeur général du Palais de la Porte Dorée à Paris et donc du Musée National de l'Histoire de l'Immigration et de l'Aquarium Tropical. Vos questions à Pap Ndiaye dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter. Le directeur de la NASA s'est dit hier soir débordé par l'émotion. Une émotion à la hauteur de l'exploit. Après avoir parcouru 472 millions de kilomètres en 7 mois, le bien nommé robot Persévérance a entamé hier, un peu avant 22h, sa descente vers Mars. Sa vitesse était alors de 20 000 km/h. 7 minutes de descente, 7 minutes de terreur, durant lesquelles les scientifiques américains et français ont retenu leur souffle. Récit d'une soirée historique avec Benjamin Hill.
Pasadena, Californie, le laboratoire de la NASA. À l'écran s'affiche le compte à rebours. 7 minutes d'angoisse, d'attente. Toute l'équipe retient son souffle. Les secondes défilent. Persévérance arrive à une vitesse folle, 20 000 km/h. Il pénètre dans l'atmosphère de Mars. La température du vaisseau monte à 1300 degrés. La décélération commence. Swati Mohan, en charge du contrôle des opérations à la NASA, annonce que Persévérance est à 16 km de la surface. 20 mètres.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
Et Persévérance s'est posée sur Mars. 7 minutes de terreur écoulées. Le laboratoire de la NASA, scène de joie. C'est irréel. Persévérance est en vie sur la surface de Mars. L'image arrive en noir et blanc. Persévérance, logée au cœur du cratère G0, dévoile une petite partie du paysage martien. On voit l'ombre du robot. Sur son compte officiel, sur Twitter, il y a ce message. Bonjour le monde, ma première vue sur la maison qui sera la mienne pour toujours.
Récit donc de Benjamin Hilly. La NASA a promis une vidéo de cette vertigineuse descente dès lundi. Persévérance va pouvoir entamer sa mission, tenter de trouver des traces de vie en scène sur la planète rouge. Dans le journal de 8h, Sophie Bécherel détaillera les enjeux et les moyens de ce voyage sur Mars.
7h03 sur France Inter et la période d'isolement, Agnès, pour toutes les personnes positives au Covid va passer de 7 à 10 jours et ce, dès lundi prochain.
C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé hier, car plusieurs études tentent à démontrer que les variants pourraient rendre contagieux plus longtemps. Véronique Juliaf.
Les études en question n'ont pas été nommées par le ministre, mais les infectiologues nous en citent quelques-unes qui tendraient à conclure en effet que la contagiosité est probablement prolongée avec le variant anglais. Une étude notamment de l'université d'Harvard, publiée avant-hier mais pas encore relue par des pairs, semble étayer cette hypothèse. Elle s'appuie sur le suivi de membres ou de proches de la NBA, la ligue de basket américaine, qui sont régulièrement testés, des joueurs, des membres du staff notamment. Dans ce groupe, les chercheurs ont isolé 64 personnes infectées, 7 d'entre elles l'étaient avec le variant britannique, et ils se sont rendus compte que ces 7-là avaient une durée d'infection plus longue, 13,3 jours contre 8,2 jours pour le variant originel, ce qui suppose aussi un temps de contagiosité plus long. Leur échantillon est malgré tout très modeste, 7 personnes c'est peu, mais au stade de nos connaissances qui sont encore très partielles et alors que le variant progresse au point d'être déjà majoritaire dans plusieurs départements, mieux vaut être trop prudent que pas assez. Depuis le 7 février, la période d'isolement a été fixée en France à 10 jours pour les variants brésiliens et sud-africains, mais seulement 7 jours pour le variant britannique.
Des variants bien présents donc dans l'Hexagone. Le variant anglais concerne aujourd'hui un cas sur trois et les variants brésiliens et sud-africains 5 5% des nouvelles contaminations, avec de fortes disparités géographiques, flambées de contamination dans les régions de Nice, de Dunkerque et en Moselle, sans que l'on puisse toujours faire le lien avec la présence des variants. Olivier Véran, hier soir, lors du Point Presse.
Dans certains territoires, il y a un lien clair entre la flambée épidémique et la montée des variants. Mais force est aussi de constater que un fort taux de variants ne s'accompagne pas toujours, en tout cas pas au début, d'une augmentation du nombre des contaminations. Et l'honnêteté m'oblige à vous dire que pour l'heure, nous ne savons pas l'expliquer. Je partage ces constatations précoces avec nombre de mes homologues, ministres de la Santé. Ils sont pour certains d'entre eux dans la même situation que nous. Encore une fois, il faut prendre les choses avec modestie. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Les variants apparaissent ça et là sur le territoire, parfois à partir d'un petit foyer épidémique. C'est pour ça que le tester, alerter, protéger est fondamental. On casse les chaînes de contamination. Il y a des endroits où on voit qu'il y a beaucoup de variants et il y a beaucoup de cas. Il y a des endroits où il y a peu de variants et beaucoup de cas. Et les endroits où il y a beaucoup de variants et à ce stade, pas encore beaucoup de cas. Et donc c'est l'observation au jour le jour qui nous permet d'affiner les modèles et de faire des projections qui soient plus justes.
Des questions aussi sur les cas de Covid au sein de l'équipe de France de rugby en plein tournoi des Six Nations. Fabien Galthié et son adjoint William Servat testés positifs. D'autres tests sont prévus aujourd'hui. Et l'inquiétude sur l'avenir du 15 tricolore, Fanny Lechevestrier.
L'inquiétude est montée d'un cran en fait mercredi soir avec l'annonce de plusieurs cas positifs parmi les joueurs de l'équipe de France à 7. Or, certains d'entre eux se sont entraînés jeudi dernier avec le 15 de France. Une enquête est d'ailleurs en cours pour établir un lien formel entre les contaminations. Toutes les interactions des Bleus au sein de la bulle sanitaire sont également examinées et surveillées de près par le comité des Six Nations. Mais pour le moment, le match France-Écosse du 28 février n'est pas menacé. Tout va dépendre des tests pratiqués aujourd'hui sur les joueurs. 7 jours après la première contamination supposée. Des cas positifs et la thèse d'un foyer épidémique à Marcoussis ne ferait plus de doute. Fabien Galthié devra alors remplacer tous les joueurs touchés, voire pire. Selon les directives des organisateurs, les 28 présents dans la bulle de Marcoussis la semaine dernière. Bien sûr, sportivement, le coup serait rude pour les Bleus. La fédération devra elle répondre à une question. La présence des joueurs à 7 dans la bulle faisait-elle partie du protocole sanitaire strict validé par les autorités?
Et puis un seuil a été franchi hier dans la campagne de vaccination avec désormais plus d'1 million de personnes vaccinées en France et près de 2,5 millions de personnes qui ont reçu une première dose du vaccin. Reste que la méfiance s'installe face au vaccin d'AstraZeneca. Explication dans le journal de 7h30. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire après la plainte déposée contre Patrick Poivre d'Arvor. Une jeune écrivaine, Florence Porcel, accuse l'ancien présentateur vedette de viol. PPDA, aujourd'hui âgé de 73 ans, dénonce des accusations absurdes et mensonges. Et un procès expéditif en Algérie. Après 7 ans d'attente, une seule journée d'audience aura suffi pour juger les 14 personnes poursuivies pour l'assassinat du guide français Hervé Gourdel, enlevé et décapité par des djihadistes en Algérie en 2014. Les accompagnateurs du guide ont été acquittés. Les 7 djihadistes ont été condamnés à mort. Un seul était présent hier à l'audience, Claude Guibal.
Il a tout d'abord rejeté les charges qui pesaient sur lui. Abdelmalek Hamzaoui l'a répété au juge. Il n'a pas, dit-il, participé à l'enlèvement ni à l'assassinat d'Hervé Gourdel, ajoutant même qu'il était là parce qu'il fallait un nom à jeter en pâture pour boucler le procès et, selon ses mots, faire plaisir aux Français. Abdelmalek Hamzaoui aurait été identifié sur la vidéo terrible de la décapitation d'Hervé Gourdel après son enlèvement il y a 7 ans dans les montagnes de Kabylie. Arrêté, c'est lui qui, 4 mois plus tard, aurait conduit l'armée algérienne jusqu'à son corps. Abdelmalek Hamzaoui était accusé d'appartenir au Jund al-Khilafa, ce groupuscule djihadiste qui venait de faire allégeance à Daesh lorsqu'il a revendiqué l'enlèvement du guide de montagne. 7 autres djihadistes étaient jugés par contumace. L'Algérie dit avoir anéanti les forces du groupe terroriste au cours de multiples opérations dans la foulée de l'assassinat d'Hervé Gourdel. De toutes les personnes poursuivies à ce procès, il était le seul à encourir la peine de mort.
Le geste, ou plutôt les gestes de l'administration américaine pour relancer les discussions avec Téhéran sur l'accord de 2015 sur le nucléaire. Washington accepte de participer à des pourparlers avec l'Union européenne et Téhéran. Le département d'État américain a également allégé les restrictions de circulation des diplomates iraniens à l'ONU. Et puis on vient d'apprendre la mort de la manifestante birmane blessée par balle la semaine dernière par la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir au début du mois de février. La jeune femme avait été blessée à la tête par les forces de l'ordre lors d'une manifestation dans la capitale birmane.
7h32. 7h10, Agnès Soubiran, les zadistes de Gonesse vont-ils être délogés par la justice?
Le tribunal de grande instance de Pontoise doit statuer sur la demande d'évacuation déposée par la présidente de région, Valérie Pécresse. Les écologistes se battent contre les projets d'urbanisation de ces terres agricoles situées dans le triangle de Gonesse, donc dans le Val d'Oise. Le projet de centre commercial Europa City a bien été abandonné, mais le projet de gare pour la future ligne 17 du métro est toujours dans les cartons. Reportage de Laurence Perron.
C'est un vigile d'une société privée qui surveille les abords de la ZAD.
La porte d'entrée, c'est là-bas.
Bonjour, on a eu Bernard Lou au téléphone, on a rendez-vous avec lui ici. Ah, il n'est pas encore arrivé.
Derrière les grandes palissades de tôle, un dortoir, des tentes, une cuisine collective. Et Bernard Lou qui a fini par arriver, le représentant du collectif pour le triangle de Gonesse, ne comprend pas que le gouvernement hésite encore à lâcher.
Par rapport à cette lutte, il y a une solidarité extraordinaire qui se manifeste de partout.
Depuis dimanche, de nouveaux occupants arrivent tous les jours. D'anciens zadistes, des militants écolos, des membres d'Extinction Rébellion, des anarchistes.
Moi je suis de Saclay.
Zinga, 22 ans, elle est étudiante.
Donc en fait on a très vite vu le lien entre la ligne 18 et la ligne 17, donc un projet qui va bétonner du coup des terres agricoles. Donc on s'est dit que c'était hyper important de faire le lien et de faire un peu flipper les politiques publiques parce qu'en fait ce qu'ils veulent c'est qu'on se rassemble pas.
En plein épluchage de légumes, John et Husky sont bien conscients que l'évacuation est sans doute imminente.
Si les keufs veulent nous dégager, j'ai du mal à croire qu'on va résister longtemps.
Ça ne changera pas notre détermination.
Ouais. Non, mais ils nous dégagent d'ici, on ira ailleurs. En fait. Ils en font tomber un, il y en aura 100 qui se lèveront et c'est pas une évacuation qui les fera lâcher.
On repart par la même porte en tôle qui laisse entrer de nouveaux zadistes, sacs et tentes sur le dos, prêts à tenir le siège.
La lutte contre l'artificialisation des terres agricoles d'un côté et le retour à la terre des surfaces bétonnées de l'autre. Dans les grandes villes, les parkings ont tendance à se vider. De plus en plus d'emplacements en sous-sol sont ainsi reconvertis en chambres froides, en zones de stockage ou en fermes urbaines. Les champignons poussent porte de la chapelle dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un reportage de Yann Gallic.
C'est un parking désaffecté de 9000 m² situé sous des barres HLM. Ici, les box ont été transformés en parcelles agricoles. Les champignons et les endives remplacent désormais les voitures.
L'année dernière, on a fait un peu plus de 60 tonnes d'endives et une trentaine de tonnes de champignons.
Jean-Noël Gertz est le cofondateur de La Caverne. Cette ferme biologique est créée en 2017 dans ce parking souterrain qui appartient à un bailleur social.
On lui paye un loyer qui est proportionnel à notre chiffre d'affaires, ce qui nous a beaucoup aidé au démarrage. Ces parkings, aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc ces locaux, ils sont assez idéaux, ils sont proches des réseaux de distribution, très proches des consommateurs. Pour la logistique, c'est très facile de distribuer nos produits. Et en plus, c'est du foncier, du béton, une superstructure en béton qui existe déjà. Et la réhabilité, c'est assez facile, on va dire.
Les sous-sols représentent aujourd'hui un vrai potentiel immobilier, explique l'architecte Dominique Perrault, auteur d'une étude sur le parking du futur.
Il faut penser le parking comme un bâtiment, comme un système à étages, des premiers étages de services, d'autres étages de mobilité, d'autres étages de stockage de données, d'autres étages de développement d'agriculture souterraine. Il n'y a pas de limite à l'imagination.
Selon les estimations, à Paris, entre 2 et 3 millions de mètres carrés de parking souterrain pourraient être exploités pour de nouveaux usages.
Yann Gallic pour des champignons et des endives, produits on ne peut plus localement.
Merci Agnès Soubiran.